Je suis sûr qu'il vous est arrivé, comme à moi, de penser ou même de dire tout fort, vivement que Jésus revienne. Il vous est arrivé de dire, vivement que Jésus revienne, parce que ce jour-là, tous mes défauts auront disparu. Et surtout ceux des autres. N'est-ce pas? Et puis ce jour-là, toutes les promesses de Dieu vont se réaliser. C'est une bienheureuse espérance, c'est une glorieuse espérance. Mais en attendant, quelle galère. Oh, vous ne l'avez peut-être pas dit comme ça, mais vous l'avez pensé tellement fort. Et je crois qu'il y a effectivement dans cette attente du retour de Jésus quelque chose de puissant et quelque chose de saint. Nous attendons le retour de Jésus et nous attendons qu'il revienne et qu'il revienne vite et qu'il mette un terme au mal et au péché et à ses conséquences. Et nous avons hâte de voir les promesses de Dieu se réaliser. Cependant, lorsque nous disons cela, il nous faut aussi admettre que nous avons dans notre esprit l'idée, bien souvent erronée, que les promesses de Dieu vont toujours se réaliser dans l'avenir. Je crois que Dieu a donné des promesses et qu'un certain nombre de ces promesses sont certes destinées à se réaliser dans l'avenir, mais un bon nombre des promesses que Dieu nous a données sont destinées à se réaliser ici et maintenant. Et en tant que chrétien, je crois qu'il serait dommage de nous porter uniquement dans le futur, en pensant, quand Jésus reviendra, il va réaliser toutes les promesses, quand Jésus reviendra, il va faire de moi un homme, une femme, un jeune, parfait, prêt pour le ciel, alors que le Seigneur a des promesses précises qu'il voudrait réaliser maintenant pour chacun d'entre nous. Manquer la réalisation de ces promesses-là, ce serait manquer les bénédictions que le Seigneur déverse sur notre chemin en attendant qu'il revienne. Ce serait manquer de recevoir de sa grâce les forces dont nous avons besoin pour attendre sa venue et pour faire face à tout ce que le temps va mettre sur notre chemin d'ici là. J'aimerais ce matin voir avec vous deux promesses que le Seigneur a faites il y a très longtemps et pour lesquelles des réalisations nous attendent aujourd'hui. J'aimerais commencer par lire avec vous un passage que vous connaissez bien et je vous invite à prendre vos Bibles, à suivre avec moi la lecture dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, nous lirons là un passage que vous connaissez, que certains d'entre vous connaissent par cœur et qui est un résumé de ce que nous concevons comme étant le message adventiste. Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, je vais lire à partir du verset 6. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » C'est là le contenu de ce premier message, le message du premier ange d'Apocalypse, chapitre 14. Il y a dans ce premier message un résumé très dense de divers enseignements des Écritures qui se trouvent ici proclamés une dernière fois au monde. Si vous regardez le contexte de ce chapitre 14, vous vous rendez compte que, après le troisième message, vient au verset 14 la description symbolique du retour de Jésus. Autrement dit, ce message-là, c'est le message qui est annoncé au monde une dernière fois avant que Jésus revienne. C'est dire à quel point il est important. Le premier message contient cette interpellation, adorez Dieu pour la bonne raison. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. On ne peut craindre Dieu, on ne peut lui donner gloire que si l'on a découvert le salut par la foi en Jésus, celui qui est capable de mourir sur la croix pour que nous puissions être sauvés gratuitement. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Dans nos paroles, dans nos vies, ça c'est une autre affaire. Il nous est donné le sentiment de l'urgence dans ce message. Car l'heure de son jugement est venue. Et nous savons que le jugement dans le ciel, c'est la dernière étape avant le retour de Jésus. La dernière borne avant le retour de Jésus. C'est dire à quel point ce message est un message d'urgence. La dernière proclamation avant que Jésus revienne. Il nous est demandé de donner à ce jugement sa juste valeur. Et nous savons par les Écritures que dans le jugement, Dieu n'est pas en train de nous punir. Il est en train de réhabiliter tous ceux qui lui appartiennent dans leur statut de fils et de fille de Dieu. Le jugement, c'est d'abord la délivrance. Et c'est ce que nous attendons. Dans le livre des psaumes, plusieurs psaumes nous parlent de jugement et présentent la terre, la nature, qui éclate de joie, car il vient pour juger la terre. C'est le message biblique du jugement. La réhabilitation en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes invités à cause de cela d'adorer celui qui nous est présenté dans ce texte comme étant le Créateur, celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau. Il n'y a pas 36 manières d'adorer le Créateur. La Bible nous donne le mode d'emploi pour adorer le Créateur, le sabbat. Le jour où nous arrêtons nos activités pour dire à Dieu à quel point nous reconnaissons que ce n'est pas pour notre activisme que nous allons être sauvés, mais par le repos en Jésus-Christ. C'est dire à quel point le sabbat, à la fin des temps, prend un sens de grande importance. Si nous n'avons pas appris, à la fin des temps, à nous reposer entièrement sur Jésus-Christ, nous louperons le sabbat éternel. Et vous savez à quel point c'est dur de s'appuyer sur le Christ à 100%. Le sabbat est là pour nous apprendre à le faire, non seulement dans la théorie, mais aussi dans la pratique. Maintenant, ce message d'Apocalypse, si vous me permettez l'expression, Jean ne l'a pas inventé, il est dans l'Ancien Testament. Nous en avons fait la lecture tout à l'heure et je vous propose de vous y reporter. Le premier message d'Apocalypse 14 est écrit dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 56. J'aimerais simplement reprendre quelques éléments et alors que je vais les relire, souvenez-vous à quel point Apocalypse 14 fait écho à ce que Ésaïe prononce ici de la part du Seigneur au chapitre 56 de son livre. Vous avez dans Ésaïe 56 le message d'Apocalypse 14. Écoutez ceci. Observez ce qui est droit, pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, gardant le sabbat pour ne point le profaner. Un petit peu plus loin, au verset 5, il est dit, au verset 4, pardon, il est question des eunuques. Aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, qui persévéreront dans mon alliance. Vous n'entendez pas ici Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Vous n'entendez pas ça? Verset 5, « Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. » Et il nous est dit encore au verset 6, « Tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples, toutes tribus, toutes langues, toutes nations. » Le message d'Apocalypse 14 se trouve ici, dans l'Ancien Testament. Et il contient les deux promesses que je voudrais relever ce matin. Le verset 5 nous dit, « Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. » Et ici, Ésaïe est en train de dire, « Ceux qui vont se préparer pour le jugement, ceux qui se préparent pour le moment où le salut viendra en Jésus-Christ, ceux qui veulent observer le sabbat, ceux qui veulent aimer le nom de l'Éternel pour le servir, à ceux-là, je leur donnerai une place et un nom préférable aux fils et aux filles. » C'est-à-dire que cette promesse-là, Dieu veut la réaliser pour ceux qui attendent le retour de Jésus à la fin des temps d'une manière beaucoup plus forte, beaucoup plus grande et beaucoup plus glorieuse qu'il ne voulait le réaliser pour le peuple d'Israël. Or, ceux qui attendent le retour de Jésus, ceux qui se préparent pour son jugement, ceux qui veulent observer le sabbat et servir le nom de l'Éternel, c'est vous et moi, j'espère. Cette promesse qui nous est faite ici, c'est en réalité la promesse qui était faite à Abraham, vous la reconnaissez. Une place et un nom. Prenez avec moi le livre de la Genèse. Nous allons retrouver cette promesse lorsque Dieu l'a présentée à Abraham. Genèse, chapitre 17. Il est dit au verset 2, et c'est Dieu qui parle, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême. » Verset 5. « On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Verset 7. « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de la postérité après toi. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, possession perpétuelle, je serai leur Dieu. » Voilà la promesse que Dieu fait à Abraham. Un nom nouveau. Tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham, père d'une grande nation. Et ce nom va se perpétuer dans tous tes descendants. Et puis un lieu, la terre promise, Canaan, sur laquelle tu es maintenant comme un étranger. Cette promesse, vous l'entendez, c'est ce à quoi le peuple de Dieu s'est accroché pendant toute l'histoire de l'Ancien Testament. Mais il est difficile de lire cette promesse dans le prophète Ésaïe comme on l'a lu tout à l'heure. Difficile de la lire parce que Dieu promet que cette promesse va se réaliser encore plus glorieusement pour d'autres que pour ceux qui l'attendaient dans l'Ancien Testament. Et ceux pour qui ces deux promesses vont se réaliser plus glorieusement, c'est vous et moi. Quelles sont-elles? Comment est-ce que Dieu va nous donner un autre nom? Comment est-ce que Dieu va nous donner un autre lieu? Généralement, lorsque nous pensons à cela, nous disons « Dieu va nous donner ce lieu lorsque Jésus reviendra et nous donnera la Canaan céleste. » Et puis, nous nous référons au texte que nous allons regarder, où il nous est dit que nous aurons un nom nouveau à ce moment-là. C'est-à-dire que ces promesses-là, pour nous, sont dans le futur. Je n'aimerais pas que nous les manquions parce que nous avons cru qu'elles étaient exclusivement réservées au futur. Revenez avec moi dans le livre de l'Apocalypse. Au chapitre 2. Apocalypse, chapitre 2. Vous connaissez ce passage. Il est dans la lettre que Jésus envoie à l'église de Pergame. Au milieu du verset 17, il est écrit ceci. Apocalypse, chapitre 2, verset 17. « À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » Je donnerai un nom nouveau. Regardez maintenant quelques chapitres plus loin, là où nous étions tout à l'heure, dans le chapitre 14 de l'Apocalypse. Ce chapitre commence au verset 1er en disant « Je regardais, voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Nous sommes donc invités à porter la signature de Dieu sur nous-mêmes. » Signature, c'est un signe d'appartenance. Lorsque nous portons la signature de Dieu, c'est que nous avons accepté de lui appartenir. Ce qui veut dire que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Et puis, la signature, c'est aussi une marque d'authenticité. Si vous signez une lettre, ça veut dire qu'elle est bien de vous et que le contenu, c'est vous qui l'avez écrit et que vous êtes d'accord avec ce que cette lettre dit. C'est un signe d'authenticité. Est-ce que nous sommes prêts à porter le signe d'authenticité que Dieu veut placer sur chacun d'entre nous? Amen. Sommes-nous prêts? Le nom dans les Écritures, c'est le caractère. C'est la raison pour laquelle certains personnages vont entendre Dieu leur dire « Ton nom ne sera plus ceci, mais il sera cela. » Parce que leur expérience avec Dieu les a transformés. Maintenant, je ne porte pas nécessairement le nom de Dieu sur moi, en moi, parce que je suis né dans l'Église, parce que mes parents étaient dans l'Église, parce que le pasteur est sympathique. Écoutez, si vous arrivez par malheur de naître dans un garage, vous seriez mécanicien pour autant ? Si votre maman s'est trouvée en voyage en avion et puis qu'elle a accouché là-haut dans les airs, vous êtes né pilote d'avion? On n'est pas simplement chrétien en ayant son nom inscrit dans le registre de l'Église. Il faut que notre nom soit inscrit dans le livre de vie, ce n'est pas le même livre. Ainsi, par exemple, c'est quoi un végétarien? Alors, vous allez demander ça là-dehors, on va vous dire, c'est quelqu'un qui ne mange pas de viande. Et on va comprendre, ben, c'en est un qui mange comme tout le monde, sauf que il ne mange pas la viande. Bon, ceux qui s'y connaissent, ils vont vous dire, non, ce n'est pas ça. On va penser qu'un vrai chrétien, c'est quelqu'un comme les autres, mais il va avoir les boîtes de nuit, les bijoux et le porc en moins, mais il va avoir le sabbat, la dîme et les offrandes en plus. Mais ça ne fait pas de nous un chrétien qui porte la marque de l'authenticité de Dieu et la signature du Christ sur nous-mêmes. Est-ce que vous avez l'impression d'être un chrétien comme les autres qui a le sabbat en plus, la dîme, les offrandes? Et malheureusement, ben, on fait avec, on a en moins tout un tas de choses qu'on nous a enlevées. C'est ça le christianisme? On ne peut pas bricoler le christianisme. Jésus l'avait expliqué, regardez ce texte avec moi, dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 9. Je vous propose de regarder le verset 16 et 17. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Parabole, où Jésus est en train de dire, on ne peut pas rafistoler un homme pour en faire un chrétien. On ne peut pas bricoler notre vie pour qu'elle devienne socialement et religieusement acceptable. On ne peut pas faire d'accommodement raisonnable avec le Seigneur pour que notre vie soit publiquement acceptable. En réalité, le chrétien, celui qui va porter la signature du Christ sur lui-même, c'est celui qui va passer par l'expérience de nos amis cet après-midi, de mourir pour ressusciter. Et vous avez remarqué, il n'y a jamais de résurrection pour quelqu'un qui n'est pas mort. Ce qui veut dire que tant que nous ne sommes pas morts, nous ne pouvons pas ressusciter en Jésus-Christ. Vous vous souvenez de ce passage dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 5 où il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » On ne peut pas rafistoler et bricoler pour devenir un chrétien. C'est une nouvelle créature. Ça demande de notre part cet abandon entre les mains du Christ pour lesquels nous avons souvent, les uns et les autres, tant de difficultés. Mais là, le nom nouveau apparaît. Regardez maintenant avec moi dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3. Galates, chapitre 3, il se trouve là la réalisation de la promesse dont nous parlons. Est-ce que nous allons recevoir le nom nouveau lorsque Jésus va revenir? Le nom nouveau, nous l'avons. Épître de Paul aux Galates, chapitre 3, verset 26. Il est écrit ceci. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Qui est-ce que nous appelons le Fils de Dieu? Jésus. Eh bien, ce texte est en train de nous dire que nous sommes appelés du même nom lorsque nous avons été baptisés en son nom et que nous avons revêtu sa justice. Autrement dit, le Seigneur nous appelle du même nom que celui de Jésus. Fils de Dieu, fille de Dieu, maintenant, par la foi en Jésus-Christ. C'est là notre nom nouveau. Et si nous sommes fils et filles, et si nous portons la signature de Dieu sur nous-mêmes, nous allons pouvoir à ce moment-là comprendre que ce nom nouveau, il n'est pas simplement à venir plus tard, il est à venir maintenant. Ellen White écrit ceci dans le livre « Sons and Daughters of God ». Permettez que je vous lise ce paragraphe. Écoutez bien. « Les vêtements purs et saints ne sont pas préparés pour être portés après notre entrée par les portes de la ville sainte. Quiconque entrera portera déjà la robe de justice de Jésus et le nom de Dieu se trouvera sur son front. Le nom est le symbole que l'apôtre a vu en vision et signifie cet abandon de notre esprit dans l'obéissance intelligente et loyale à tous les commandements de Dieu. Le nom pour plus tard, pour maintenant. Et cette robe de justice, ces vêtements purs, ce caractère transformé, c'est maintenant que nous sommes invités à le porter. Ceux qui rentreront par la porte de la ville sainte auront déjà revêtu cette robe-là. C'est dire à quel point nous ne pouvons pas attendre que le Seigneur fasse les changements que nous ne sommes pas prêts à le laisser faire. Et c'est probablement là la plus grande difficulté que nous avons. Le laisser faire, le laisser agir. Lorsque Jésus écrit à l'Église des derniers temps, l'Église que nous sommes, l'Église de Laodicée, il écrit une lettre qui est impressionnante parce que c'est la seule lettre des sept qu'il écrit où il n'y a pas un seul compliment. Mais, à tous ceux qui sont dans l'Église de Laodicée, comme pour toutes les autres églises, il y a cette porte. Parce que dans l'Église de Laodicée, il y a tous ceux qui sont vainqueurs. Celui qui vaincra. Ça veut dire que même si nous sommes des Laodicéens endormis, nous pouvons cependant devenir des vainqueurs par sa grâce et recevoir son nom aujourd'hui. Mais la place alors, la deuxième promesse. Je donnerai, disait Dieu, une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Le nom, caractère du Christ, nous sommes invités à le recevoir maintenant. Mais le lieu, où est-il ? Est-ce que ce ne sera que la Canaan céleste lorsque Jésus va revenir? Je vous propose de lire un passage dans la première épître de Paul aux Corinthiens, où il nous est parlé de cette place, justement. 1 Corinthiens, chapitre 12, nous lirons le verset 13. « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Quel est ce lieu? Comment s'appelle aujourd'hui le corps de Christ? L'Église. Le lieu que Dieu veut nous donner, non pas la terre promise, le paradis céleste, imaginez-le comme vous le voulez lorsqu'il reviendra, mais le lieu que Dieu veut nous donner, le lieu à laquelle il veut que nous appartenions, c'est l'Église. C'est le lieu du chrétien. Quel est le lieu de l'enfant? La famille. Quel est le lieu de l'enfant de Dieu? La famille de Dieu. Hélas, nous avons peut-être avec le temps développé toutes sortes d'idées fausses sur l'Église. Mon ami Raoul Desdraines a écrit un texte que je trouve intéressant sur ce sujet-là. Et on peut apprendre ce que l'Église est en regardant aussi ce qu'elle n'est pas. Écoutez ceci. L'Église n'est pas un salon de coiffure où l'on coupe les cheveux en quatre. L'Église n'est pas un restaurant où l'on va pour bien manger. L'Église n'est pas un musée où l'on est seulement spectateur. L'Église n'est pas une station-service où on fait le plein de temps en temps. Et j'aime bien le dernier. L'Église n'est pas un wagon-lit où seul le conducteur est censé ne pas dormir. Ce n'est pas ça l'Église, c'est le corps du Christ. Et il continue, cette question vous l'avez probablement peut-être posée vous-même ou vous l'avez entendue, peut-on être chrétien sans se rattacher à l'Église? Et Raoul Desdraines dit, oui, cela est possible, tout autant qu'il est possible d'être étudiant sans aller au cours, d'être un soldat sans armée, d'être un commerçant sans client. C'est possible tout autant que d'être un marin sans navire, d'un chef d'orchestre sans orchestre, d'un footballeur sans équipe. Peut-on être un chrétien sans être attaché à une église? Oui, ça est possible, tout autant qu'il est possible d'être une abeille sans ruche. Le corps de Christ. Cette famille recomposée, qui a son unité par l'attachement aux Écritures et à la personne du Christ. Ce lieu qui est le seul lieu pour certains d'entre nous. En réalité, Jésus avait fait comprendre que l'Église n'est pas un bâtiment. Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et le Seigneur, dans ce sens-là, veut faire de son Église le lieu de chacun d'entre nous, le lieu de la promesse. Paul Tournier, qui est un médecin suisse, a écrit dans son livre quelque chose que j'aime énormément. C'est un chrétien, et il dit, en parlant de l'Église, c'est dire qu'en donnant à l'homme son lieu, Dieu lui donne en même temps une mission et une responsabilité, c'est-à-dire donner un lieu à ceux qui n'en ont pas. L'Église, c'est le lieu pour ceux qui n'en ont pas ou qui n'en ont plus. L'Église est une famille pour ceux qui ont perdu la leur à cause de leur foi. L'Église est une famille pour ceux dont la famille est à l'autre bout du monde. L'Église, c'est là où se trouve le Christ, où que vous alliez. C'est le lieu que le Seigneur a promis de vous donner avant qu'il revienne. Ainsi, si nous attendons que Dieu réalise toutes ses promesses dans le futur, nous sommes en train de manquer une multitude de bénédictions que le Seigneur veut placer entre nos mains. Des bénédictions indispensables pour nous préparer à son retour. À ceux qui persévèrent dans mon alliance. À ceux qui veulent aimer le nom de l'Éternel pour le servir, je leur donnerai une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Ce nom, c'est le nom du Christ écrit dans notre cœur, dans notre caractère. Il veut le faire maintenant. Le lieu, c'est l'Église, c'est son corps. C'est le lieu qu'ils veulent nous donner, où que nous allions dans le monde. Le Seigneur nous a fait une grâce aujourd'hui. C'est que, où que vous alliez dans le monde, vous trouverez des frères et sœurs de l'Église adventiste qui attendent le retour de Jésus. Quelques-uns, beaucoup, peu importe, l'Église est là et c'est le lieu qu'il nous donne. Que le Seigneur nous donne la grâce, en attendant son retour, de saisir ses promesses, celles d'un nom, celles d'un lieu, et d'être courageux jusqu'à ce qu'il revienne. Amen.